Vous écoutez RTL.
Pour le monde entier, ben on est les champions du monde, mais de la cuisine et de la bonne chère et de la gastronomie aussi. C'est une excellence héritée d'un long passé culinaire. À table Thomas, à table les curieux. Et bonjour Cyrielle Lemoyle-Togba.
Bonjour Cyrielle.
Avec vous, on va plonger dans l'histoire de la gastronomie et ça nous fait très plaisir. Alors, la gastronomie française, c'est pas nouveau. Ça date du 1er siècle. Que servait Apicius à son empereur Tibère?
Alors, Apicius, c'est un Romain. Vous allez me dire quel est le rapport avec la France. Eh bien, il y a un rapport assez étroit, puisqu'Apicius est un cuisinier qui va servir à l'empereur des spécialités de la Gaule. Donc, des saucissons de Lugdunum, c'est Lyon, des saucisses de Tolosa, Toulouse.
La bouillabaisse de Massilia.
On
se croirait dans Astérix.
Et il va éduquer un peu comme ça le palais romain aux spécialités gauloises.
Donc, dès le 1er siècle,
on fait déjà autorité.
Alors, on va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait l'excellence française depuis aussi longtemps. Il va y avoir Catherine de Médicis, il va y avoir Louis XIV. Louis XIV est le grand couvert. A tout de suite sur RTL.
Alors voilà. Vous prenez 1 kg kartoffeln.
Für wie viel Personen?
Ça dépend, pour 6 personnes normales ou alors pour une personne anormale, une grosse personne.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La bonne cuisine, c'est d'abord la qualité du produit. Et sans bon produit, on ne peut pas faire de bonne cuisine.
La curiosité est un vilain défaut.
Et je dis aujourd'hui, restez un peu simple, car la cuisine française, c'est d'abord du produit de qualité.
Sur RTL.
On a entendu successivement Louis de Funès et Paul Bocuse et c'est merveilleux parce qu'avec Gaëlle Renouvel et Cyrielle Lemoyle-Togba, on plonge dans l'histoire de la gastronomie. C'est le dossier de Ça m'intéresse Histoire en partenariat avec RTL. Alors, qui doit-on remercier? On doit remercier Catherine de Médicis. Pourquoi?
Alors, en premier, on doit remercier effectivement Catherine de Médicis parce qu'on doit à cette reine venue d'Italie beaucoup de nouveautés culinaires. Quand elle arrive en France en 1533 pour épouser Henri II, déjà elle introduit la fourchette. Avant, on mangeait avec les doigts, c'est moins glamour. On peut déjà la remercier
oui,
pour ça.
Oui, ça c'est vrai.
C'est pas mal, déjà c'est pas mal. On lui doit aussi des nouveaux aliments qui paraissent à l'époque très très exotiques, comme du maïs, des piments, du poivron, des courges, qui viennent du Nouveau Monde. Donc c'est grâce à elle aussi qu'on mange un peu plus de légumes. Et Catherine de Médicis, elle adorait le sucre. C'était vraiment un bec sucré. Donc avec elle, les cuisiniers français ont dû apprendre à préparer des sorbets, des macarons, la frangipane et d'autres petites gourmandises.
Et donc, on comprend grâce à vous que finalement, cette excellence de la gastronomie française, elle a traversé les époques, elle a traversé les siècles. Ça commence au premier siècle de notre ère, on le disait tout à l'heure, avec des mets gaulois qui sont offerts à l'empereur romain. Ça continue avec, par exemple, tiens, parce qu'on est obligé de faire des sauts dans le temps, Louis XIV est le grand couvert. C'était quoi le grand couvert?
Alors, Louis XIV, le roi soleil est féru il est féru de rituels et le grand couvert va être un moyen pour lui d'asseoir son pouvoir. Imaginez un repas au cours duquel on sert plus de 100 plats servis par 500 officiers de la bouche du roi et qui est un repas qui est suivi par des courtisans qui se pressent pour y assister. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'en mettre plein la vue.
C'est du soft power de Barack Obama, époque Louis XIV.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait de la politique, de la diplomatie avec ses grands dîners, avec ses grands couverts?
Il fait de la politique avec ses armées et grâce à ses cuisiniers et grâce à tous ces gens qui portent les arts culinaires, il va éblouir l'Europe. Il va inviter, pendant les rendez-vous pendant lesquels il reçoit les ambassadeurs, il va leur en mettre plein la vue finalement et les courtisans lui mangent littéralement dans la main, si on peut dire.
Alors chaque époque donne son progrès et construit comme ça le grand édifice de la gastronomie française. Qu'est-ce qu'on doit à la Révolution française?
Je laisse la parole...
Au sans-culotte.
C'est moi.
C'est bien. Alors, c'est qui fait la sans-culotte, là?
Ils font un peu peur.
C'est Cyrielle Lemoyle-Togba.
On quitte Versailles et on est après la Révolution, la chute de la monarchie. Et les cuisiniers vont se retrouver sans emploi puisque tous les nobles émigrent pour sauver leur tête, tout simplement. Donc, les cuisiniers vont réintégrer Paris et y ouvrir des établissements dans lesquels on sort des restaurant. Qu'est-ce que c'est un restaurant ?
On sert des restaurants.
Qu'est-ce que c'est qu'un restaurant à la fin du XVIIIe siècle ? C'est un bouillon de viande qui sert à restaurer les forces.
Ah, c'est un plat au départ, le restaurant.
Et le plat va donner son nom à l'établissement.
Ça va être un carton, l'établissement, ça va s'appeler un restaurant, c'est ça ?
Exactement.
Et c'est à ce moment-là que les critiques culinaires commencent à prendre de l'importance aussi ?
Oui, parce que ça attire du beau monde, finalement, ces restaurants. Mm-hmm. Et on va commencer à établir des guides gastronomiques. Et donc, il y a des excentriques, des gens qui aiment la bonne chair, qui vont établir les premiers, l'almanach, notamment des gourmands de Grimaud de la Reynière, qui va établir, donner les bonnes adresses. Et c'est l'ancêtre du guide Michelin.
Alors au 19e siècle, on continue notre petit voyage dans le temps, le baron Haussmann qui fait construire Paris et des nouveaux appartements, et dans ces nouveaux appartements apparaît une pièce particulière qui n'existait pas avant.
Alors oui, il y a une grande nouveauté dans les nouveaux logements, c'est que maintenant on a une salle à manger. Pour nous, ça paraît assez banal. Avant, le baron Haussmann et les fameux appartements haussmanniens, il n'y en avait pas. Ce qui se passait avant, c'est que quand on recevait des gens, et ben on montait une petite table comme ça, qu'ensuite on pouvait démonter. Et c'est d'ailleurs de là que vient l'expression « dresser le couvert ».
Ah.
Voilà, donc ça, c'est pour la petite anecdote. Et du coup, avec cette pièce centrale, elle symbolise aussi le triomphe de la bourgeoisie, qui va aussi donner naissance à une nouvelle cuisine, qu'on peut encore déguster aujourd'hui d'ailleurs, qui est un mélange, en fait, si vous voulez, entre les vestiges de la haute gastronomie des aristocrates, donc ils ont récupéré certaines des astuces, et une cuisine beaucoup plus du terroir. Donc c'est des plats extrêmement riches, il y a beaucoup de crème, il y a beaucoup de beurre, on y va quoi.
Les vols au vent, les trucs comme
exactement,
ça, les bouchées à la reine.
Exactement, c'est du vol au vent, parce que ce qui est assez savoureux, c'est qu'ils reprennent aussi des recettes, on va dire, héritées de l'aristocratie, et qui peuvent s'appeler effectivement les bouchées à la reine, les fruits à la Condé. Donc on est encore dans la continuité finalement.
RTL.
Bon, alors, le menu aujourd'hui, c'est quoi ?
La curiosité est un vilain défaut.
C'est la gastronomie française.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
La tarte, tu prends une bonne pâte brisée comme ça ?
Pourquoi on dit qu'elle est brisée, la pâte ?
Ah, mais c'est parce qu'elle a eu des malheurs, quoi, tu vois. Elle est brisée par la vie. Elle a son petit cœur qui saigne.
Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va.
Avec les journalistes Gaëlle Renouvelle et Cyrielle Moine-Tolba, on remonte aux origines de la gastronomie. Alors, on était en train de remercier un peu tous les grands personnages historiques qui ont promu, qui ont développé la cuisine française que tout le monde nous envie. Mmh. Alors, on a remercié Catherine de Médicis, le bec sucré, Louis XIV qui fait son soft power dans sa salle à manger, la Révolution qui invente le restaurant, le baron Haussmann qui invente la salle à manger. Et là, on voudrait remercier l'automobile. Mais pourquoi donc ?
Alors, il faut imaginer que l'automobile se développe au début du XXe siècle. Et qui dit auto, dit long trajet. Et à un moment, long trajet, on a faim. Il faut faire une halte et il faut se restaurer. À l'époque, il n'y a pas de courte paille. On peut s'arrêter facilement. Donc, le guide Michelin a l'idée en 1900 d'établir comme ça plusieurs bonnes adresses qu'on peut faire quand on est sur la route.
Ah, ça, c'est magnifique.
Et ça a permis de développer les grands restaurants. Mais il y a quelque chose que... Peut-être je suis un peu ramolli aujourd'hui, mais je comprends pas bien. Est-ce qu'il y a une explication géographique ? Pourquoi c'est la France et pas l'Italie, l'Espagne, en Europe ? Qu'est-ce qui fait que la France est devenue la capitale de la gastronomie mondiale ?
Alors, on a parlé tout à l'heure de Catherine de Médicis. Il y a une conjonction de choses qui se passent au moment de la Renaissance du XVe siècle, XVe, XVIe siècle. Effectivement, Catherine de Médicis, la Florentine, arrive en France et fait découvrir le raffinement. Mais il y a aussi quelque chose d'important, la découverte des Amériques qui va ouvrir des nouveaux débouchés aux Européens. La France va avoir au XVIe, XVIIe siècle une compagnie des Indes, une compagnie d'Orient qui va aller chercher tout simplement la France du café, du thé, du chocolat, des nouveaux produits qu'on va découvrir dans nos cours et que les cuisiniers qui sont dans ces cours très puissantes, une des plus puissantes cours d'Europe, c'est la France. On rappelle que c'est
Louis
XIV et du monde. Donc, la France possède la plus grande armée d'Europe. Donc, effectivement, ça se passe en France parce que c'est là qu'est le pouvoir et c'est là aussi que sont les aliments, les nouveaux aliments qui font.
Et la France est aussi au carrefour de terroirs.
Et par sa situation géographique, de toute façon, intrinsèquement, la France est très bien placée du nord au sud. On a tous les produits dont on peut rêver, à la fois les influences méditerranéennes, la cuisine bien roborative du nord, c'est la cuisine au beurre et la cuisine à l'huile.
Exactement.
Quoi, on est vraiment dans ça.
Et alors, ce qui est très drôle dans le dossier que vous avez préparé dans le magazine Ça m'intéresse Histoire, c'est qu'on prend les bons plats justement de nos terroirs et on découvre des origines assez surprenantes. Bon, on va commencer. Le foie gras. Le foie gras, on va sans doute en manger un peu
c'est
là.
Le foie gras.
Et ça nous ramène au bord du Nil, à Lombon, en Égypte.
Et oui, en fait, les Égyptiens y avaient pensé avant nous, et longtemps avant nous, il y a 4500 ans, les Égyptiens se rendent compte que les oies, avant d'entamer leur longue migration, se goinfrent pour se préparer. Mmh. Et en fait, quand ils mangent les oies à cette période-là, ils trouvent que leurs entrailles ont une saveur délicieuse. Donc, ils vont reproduire cela, donc en captivité, et gaver les oies. Donc, ils vont se nourrir d'oies gavées. Et finalement, les Juifs qui étaient en Égypte vont aussi propager, de par la diaspora, ce nouvel usage. Et donc, les Juifs d'Europe centrale vont continuer cette tradition. Ils vont la porter en France, en Alsace d'abord, puis dans le Sud-Ouest. Où dans le Sud-Ouest, on est en train de cultiver une nouvelle plante qui s'appelle le maïs, et qui est particulièrement utile pour gaver les oies. Voilà comment est le foie gras.
Et alors, et le cassoulet, d'où vient-il, ce cassoulet ?
Alors, je vous fais la légende, et après je vous fais l'origine plus surprenante. La légende, c'est que pendant la guerre de Cent Ans, la ville de Castelnaudary, encore en Occitanie, est assiégée par les Anglais. Les habitants n'ont plus rien à manger. Ils vont rassembler tout ce qui leur reste. Un mélange de viande et des haricots blancs. Donc, ils vont faire un ragoût et ça revigore les soldats qui vont repousser les Anglais.
Bon, ça, c'est
la légende. En vrai, c'est pas du tout ça. Oui. Non, on pense que le cassoulet nous viendrait des Arabes, donc c'est assez étonnant. Oui. Les Arabes qui étaient présents dans le sud de la France, sud-ouest de la France, au 7e, 8e siècle, et qui auraient importé la culture des fèves blanches, les ancêtres des haricots blancs. Alors, dans le ragoût, ils mettaient pas du porc, bien sûr, ils mettaient du mouton.
D'accord, ben voilà une autre origine surprenante. Et en fait, le talent français, c'est de savoir réinventer ces plats qui viennent d'un peu partout.
Alors attention Thomas, une espèce d'énorme provocation arrive dans la curiosité. Les crêpes ne seraient pas bretonnes.
Oh ben non, on ne peut pas dire ça.
Ça c'est un blasphème, qu'est-ce qui se passe là?
Là aussi, elles seraient peut-être arabes en fait. Hein, puisqu'en fait, on les doit au pape Gélas Ier, qui est né au Maghreb.
Berbère plutôt. Alors.
Oui, pardon, excusez-moi. Là, voilà, attention. Donc qui est né au 5e siècle. Et lui, il voulait réconforter les pèlerins qui venaient à Rome, qui avaient fait un long chemin, qui étaient fatigués. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a offert des crêpes qui venaient effectivement de son pays, de son enfance, qu'il avait connue quand il était petit. Quand on parle de crêpes, là, il ne faut pas imaginer de la crêpe au Nutella ou de la crêpe beurre-sucre. Hein. On est plus sur de l'eau, un petit peu de farine, et quand c'est la fête, de l'huile et du saindoux.
Si je comprends bien, vous allez nous dire dans un instant que la tartiflette vient du fin fond de l'Inde, du gratin dauphinois, de je ne sais quelle contrée lointaine. Bref, on a encore plein de questions à vous poser sur nos plats du terroir et leur origine, la gastronomie française au menu, c'est le cas de le dire, de notre curiosité sur RTL.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
Dis-moi ce que ton rat a décidé de servir à Hugo.
De la ratatouille? C'est un peu rustique. Tu es sûr que c'est ça que tu veux servir à Hugo?
Sur RTL.
De la ratatouille? C'est une plaisanterie.
Avec Gaël Renouvel et Cyrielle Lemoine-Tolba, nous sommes en plein dans la marmite de la gastronomie, parce que vous lui consacrez un gros dossier à cette gastronomie française dans le Ça m'intéresse Histoire en partenariat avec RTL. Alors on parlait des plats qui ne viennent pas de là où on croit. Hein,
et donc, ou qui ne sont pas si anciens qu'on le croit peut-être. La tartiflette, tiens, par exemple. C'est récent. Moi, je me dis, c'est rustique, ça doit exister depuis, je sais pas, 3-4 siècles au moins.
Ah, je vais vous décevoir. C'est vrai qu'on se dit des pommes de terre, du lard, des oignons et par-dessus ça, un bon reblochon. C'est terroir, c'est traditionnel, ça existe depuis des centaines d'années. Sauf que non, pas du tout. C'est un super coup marketing du syndicat interprofessionnel du reblochon dans les années 80, donc il n'y a pas si longtemps que ça.
Qui s'est dit
1980, voilà, il y a à peu près une quarantaine d'années, et qui s'est dit le reblochon là c'est plus trop tendance, comment est-ce qu'on peut le relancer? Bim, on va vendre ce plat comme un plat du terroir, et le carton qu'on connaît.
Alors, je me suis beaucoup disputée hier soir avec mon mari, Xavier Demoulin, que vous connaissez peut-être, Thomas.
Salut, Xavier. Parce que
j'étais en train de préparer l'émission, de relire mes notes, et je lui dis, mais tu sais que les rillettes n'ont pas forcément été inventées au Mans, d'où il est originaire.
Ah voilà, donc, je me disais quel rapport avec Xavier.
Oui, quelle phrase très très longue,
oui,
pour
mais
dire
bon,
un petit
en même temps,
facile,
on est retombé
en fait.
Sur ses pattes. Hein. Donc qui a inventé les rillettes,
qui a inventé les rillettes, là vraiment il y a un couple en jeu.
Ouais, c'est un peu comme la crêpe, là on est sur un truc assez sensible en fait. Alors il y a deux écoles, hein, les rillettes du Mans et les rillettes de Tours. Et en fait l'appellation protégée c'est Tours, désolé.
Ah bon?
Ouais.
Bah, c'est Tours qui a commencé à en faire, en fait. Ah, c'est venu beaucoup plus tard au Mans. C'est pour
ça. Moi, j'ai passé un joyeux Noël.
Bon, merci. À Tours, on est au 15e siècle et au Mans, c'est plutôt le 19e siècle, hein, je crois.
Voilà. Ouais. Et puis, la recette n'est pas tout à fait la même. Bon c'est, après, c'est une question de goût.
Ah, d'accord. On veut sauver votre couple, donc on en dira
plus. C'est sympa.
Je vous remercie, Gaëlle.
Aux origines de la gastronomie française, c'est le titre de ce dossier et la couverture du magazine Ça m'intéresse Histoire en partenariat avec RTL. On y découvre aussi les plats préférés des grands de ce monde et des grands de notre histoire. On parlait de Louis XIV tout à l'heure et de son grand couvert. Qu'est-ce qu'il préférait déguster, Louis XIV? C'était quoi son plat?
Il faut déjà savoir que Louis XIV, il y avait non seulement le grand couvert, mais c'était un ogre. Hein, il mangeait au point de s'en rendre malade. Ah oui. Donc il y avait déjà ça. Mm-hmm. Mais étonnamment, il avait une passion pour quelque chose qui paraît plutôt léger, ce sont les petits pois. Donc il aimait tellement ça qu'on en servait à tous les repas, à toutes les sauces. Bah, comme les courtisans, pour se faire bien voir, aimaient bien montrer qu'ils avaient les mêmes goûts que leur souverain, tout le monde en est devenu complètement fou, au point qu'on arrive vraiment à un truc délirant, c'est qu'à un moment, s'il n'y a pas de petits pois, c'est pas la saison. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il ne faut pas que le roi soit contrarié. On va déguiser des autres légumes verts en petits pois. Voilà.
C'est drôle.
Mais oui.
Comme quoi, aujourd'hui, on mange des tomates en toute saison. Ce qui n'est pas raisonnable, je le rappelle.
Pas raisonnable,
voilà, on n'a rien inventé. Et le général de Gaulle, c'était quoi son plat préféré?
Alors lui, on va plus être sur la boisson, le champagne, hein, c'est la saison. Donc quand il séjournait à Colombey, les deux églises, de son bureau, il travaillait beaucoup, bien sûr. Le président avait une vue sur les vignobles de la maison de champagne Drapier. Donc il s'est dit, j'ai peut-être goûté le champagne qu'on produit tout près de chez moi. Et là, il a eu un coup de cœur pour la cuvée Extra Dry, qui est composée à 80% de Pinot Noir et à 20% de Chardonnay. Et qu'on peut toujours acheter aujourd'hui et boire le même champagne que le général de Gaulle.
Ben voilà, c'est plutôt la classe.
Et c'est lui qui le payait de ses propres deniers.
Exactement, ouais,
c'est-à-dire tout que à fait. La voiture arrivait dans la cour de l'Élysée et il descendait payer ses livraisons. Et évidemment, il y avait Jacques Chirac et la tête de veau, mais on en parlera
un
autre
jour. Oui, mais ça, c'est une légende à découvrir dans le magazine Ça m'intéresse, Histoire. Merci beaucoup.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.